11h midi. C'est tout droit, présenté par Philippe Robichon et Maître Mourad Serran sur Beurre FM.
Bonjour à tous, camarades auditeurs. Maître Serran est ravi de vous retrouver pour notre rencontre du samedi. Nous sommes donc le 2 mars 2024 et ça sent de plus en plus le ramadan, mon cher Philippe. Pour la plus grande joie de nos amis musulmans et en particulier pour les musulmans que je pourrais qualifier de musulmans en carton, voire même en carton pâte, pour qui ce mois sacré du ramadan sera l'occasion de se faire pardonner tous leurs péchés de l'année. En fait, pour certains, le ramadan, c'est une sorte de grande lessiveuse. Mais je m'égare, alors que je devrais plutôt rappeler le but de cette émission, ou devrais-je plutôt dire le sens de cette émission, voire même l'essence de cette émission, c'est plus profond, et qui est donc de répondre aux questions que vous allez nous poser en composant le 01 53 48 3000. Et pour ceux qui ne pourront pas passer à l'antenne, faute de temps, n'hésitez pas à me contacter sur le 06 62 58 59 64 ou à m'envoyer un petit mail sur maître.serran@gmail.com. D'ailleurs, je dois vous préciser, mon cher Philippe, que j'ai reçu hier un appel d'une personne qui m'a indiqué avoir contacté la radio la semaine dernière, mais en vain, et qui a reproché aux personnes qui ont eu la chance d'être sélectionnées de s'étaler à l'antenne. Et à la fin, il me dit « Vous êtes de Darbentata ?»« Bah oui, lui dis-je. » Et de me préciser, alors je ne sais plus si c'est sa tante ou sa mère, non seulement elle habite Darbentata, mais elle s'appelle, je vous le donne en mille, Serran. J'en tire comme conclusion. Et grave conclusion, mon cher Philippe, que Fodil n'a pas pris l'appel d'un membre, certes lointain, mais d'un membre quand même de ma famille. Mais je ne suis pas
rancunier. Parce qu'elle n'avait pas donné son numéro de carte bleue.
Ça doit être ça, je crois.
C'est comment Fodil.
Ouais, je sais comment fonctionne Fodil. Mais je ne suis pas rancunier, et d'autant moins rancunier que je n'oublie pas la gentillesse dont vous avez fait preuve à mon égard, mon cher Philippe, cette semaine. Alors que la semaine dernière, Maître Serran était quelque peu souffrant, fiévreux, vous avez eu la gentillesse de m'appeler chaque jour pour prendre de mes nouvelles et vous assurer que je prenais bien mes médicaments et notamment mes suppositoires.
À l'eucalyptus.
Et je vous en remercie. Ouais. Donc je sens bon du fiacre. Vous êtes donc véritablement un ami comme tout le monde aimerait en avoir. Mais laissons ces histoires de suppositoires pour évoquer l'actualité de la semaine. Alors non pas le génocide à Gaza, tout le monde s'en fout, et qu'il est bien connu que c'est désormais le terrain de chasse d'Israël qui applique à la lettre ce que son peuple a subi. Il n'y a pas si longtemps en Europe. Non, parlons plutôt de notre président Macron et notamment de la menace de notre président Macron à l'égard de la Russie. Et je sais que Poutine tremble depuis cette menace. Le président a indiqué qu'il n'excluait pas d'envoyer des troupes en Ukraine, des troupes françaises en Ukraine. Il est si facile de décider d'envoyer les enfants des autres quand soi-même, on n'a même pas d'enfants, que celui qui est prêt à mourir pour l'Ukraine lève le doigt, nous contacte. À part, évidemment, notre ami Miloud, vous savez, mon cher Philippe, Miloud, cet auditeur qui a eu la gentillesse de m'envoyer un message samedi dernier pour m'inviter à aller m'installer à Moscou et qui trouve que je suis trop sympathique avec Poutine. Alors, je n'ai pas d'affinité particulière avec Poutine. Je dis seulement que la Russie n'a fait qu'user de son légitime droit à sa défense. Car les pays occidentaux oublient de rappeler à leur opinion publique que l'Ukraine s'était engagée à ne pas rejoindre l'OTAN, car rejoindre l'OTAN signifierait que les États-Unis, qui n'attendent que ça, à part peut-être Trump, que je trouve d'ailleurs de plus en plus sympathique, auraient la possibilité de placer leurs missiles sur ce territoire, direction Moscou, justement. Quel pays accepterait une telle situation? La question est posée. Alors que vous soyez prêt à mourir pour l'Ukraine ou pas, n'hésitez pas à nous contacter sur le 01 53 48 3000 pour poser vos questions. Émission sous le contrôle de celui qui a déjà commencé le ramadan, tellement il a des choses à se faire pardonner, monsieur Philippe Robichon. À vous, maestro.
Moi, je jeûne toute l'année.
L'année. Bah oui, mais ça en dit long sur l'étendue de vos péchés.
Ah ouais. Je vois que votre patrimoine immobilier va encore s'agrandir. Hein. Vous allez, après la datcha, vous allez avoir un appartement dans la Trump Tower.
C'est pas exclure. Alors que je crois, il est un peu en difficulté financière. Je crois qu'il y a une amende un peu élevée.
Oui, un peu élevée.
Quelques 300 millions. Enfin, voilà. Si ça, c'est pas de l'acharnement pour empêcher ce pauvre type qu'il puisse se présenter aux élections. Enfin, je sais pas ce que c'est. Voilà, franchement, mais j'ai du mal à comprendre ça dans ce qui, et Miloud sera d'accord avec moi, dans ce qui est la plus grande démocratie du monde, les États-Unis. Hein. Et voilà, on s'acharne sur ce pauvre Trump.
Bon, vous ferez la bise à Mélania pour moi.
Je n'y manquerai pas.
Hein,
pas moche, hein.
Ah, c'est pour ça que je dis, vous lui ferez une petite bise.
Ouais, elle est même bien.
Alors, il y a une rumeur qui circulait, Maître Serran, c'est que Mélania est séparée de corps avec Donald Trump.
Si c'est pas une transition d'un champion du monde, je ne sais pas ce que c'est. Il y a une rumeur, paraît-il, et dans ce cas-là, si nous évoquions la séparation de corps.
Alors,
c'est pas fort, ça.
La séparation de corps, d'abord,
souvent, vous avez des clients qui vous parlent de séparation de corps en vous disant, écoutez, maître, moi, ce que je veux, c'est être simplement, voilà, ils rajoutent très souvent simplement être séparé de corps, alors de monsieur, de madame, peu importe, mais on vous dit, j'aimerais être simplement séparé de corps. Et, alors je leur pose la question, c'est-à-dire, ça veut dire quoi, selon vous, cette séparation de corps? Et pour eux, la séparation de corps, c'est simplement, éventuellement, une petite déclaration au commissariat pour dire, écoutez, je quitte le domicile conjugal, et puis, donc, je suis séparé de corps. Il y a une confusion, puisqu'il
y en a aussi qui pensent que le fait de ne plus avoir de rapport avec monsieur ou madame,
ce serait une séparation de corps. Ouais. Et faut faire attention à ce type de confusion, puisqu'évidemment, d'abord, être séparé de fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun donc est dans son coin. En tout cas, chacun a un domicile conjugal ou alors, en tout cas, on ne vit plus sous le même toit. Ça, c'est une séparation de fait qui n'a rien à voir avec une séparation de corps. Le fait également de ne pas avoir de relation intime avec son mari, avec sa femme, ne constitue pas une séparation de corps. La séparation de corps, c'est une notion juridique très spécifique. La séparation de corps, en fait, on pourrait la calquer tout simplement sur la procédure de divorce. Toutes les conditions qui existent pour une procédure de divorce, toutes ces conditions-là sont appliquées et applicables pour ce que l'on appelle une séparation de corps. Alors on me dira dans ce cas-là quel est l'intérêt d'une séparation de corps. La séparation de corps a cette spécificité qui fait que vous allez... Alors d'abord, il faut prendre un avocat pour monsieur, un avocat pour madame. Vous pouvez diligenter une procédure de séparation de corps à l'amiable. Donc les avocats vont rédiger une convention et puis elle sera soumise pour homologation à un notaire. Vous pouvez également diligenter une procédure de séparation de corps pour faute. Si vous avez des éléments à reprocher à l'un ou à l'autre, vous pouvez également diligenter une procédure de séparation de corps si vous êtes séparés depuis plus d'un an. Donc en fait, toutes les conditions qui permettraient d'engager une procédure de divorce sont des conditions donc, qui vous permettraient également de diligenter une procédure de séparation de corps. La différence, c'est quoi? C'est que, encore une fois, vous serez évidemment autorisé à être séparé physiquement de madame. Vous allez vivre à droite et madame à gauche. Et après, honnêtement, et je reviendrai sur le fait de pourquoi j'évoque ce sujet aujourd'hui, mais après, en tout cas, moi, en qualité de juriste, je vois pas beaucoup d'avantages là-dessus. Il faut savoir que dans le cadre d'une séparation de corps, le devoir de fidélité, par exemple, est un devoir qui s'applique. Donc, si effectivement, demain, vous vous dites une séparation de corps, comme ça, je pourrais, entre guillemets, mener ma vie tranquillement. Non, juridiquement, d'abord, vous serez toujours officiellement considéré comme marié, donc vous ne pourrez pas éventuellement vous paxer avec quelqu'un d'autre, vous marier avec quelqu'un d'autre. Et vous avez ce devoir de fidélité. Il y a un devoir de secours qui continue de s'appliquer. Dans le cadre d'une procédure de divorce, vous avez un devoir de secours pendant la première partie de la procédure, et ensuite le devoir de secours donc va s'éteindre avec le rendu du jugement de divorce. Dans le cas d'une séparation de corps, le devoir de secours va demeurer pendant toute la procédure et au-delà. Le magistrat va se prononcer sur le droit de visite et d'hébergement des enfants, sur la pension alimentaire, enfin ce qu'on appelle la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. En fait, vous serez simplement, entre guillemets, autorisé à ne plus vivre avec l'intéressé, mais officiellement, vous êtes toujours le mari ou la femme de.
Donc le mariage n'est pas dissous.
Le mariage n'est absolument pas dissous. par la suite. Il n'y a rien qui vous interdit après, dans le cadre de la procédure, de diligenter une procédure de divorce au bout d'un certain temps. Vous pouvez en fait transformer votre procédure de séparation de corps en procédure de divorce, mais ça ne se fait pas de manière automatique. Alors, pas de manière automatique dans le sens où, un, encore une fois, il faut un avocat pour monsieur et pour madame pour engager une procédure de séparation de corps. Mais si demain vous souhaitez divorcer, c'est une nouvelle procédure qu'il va falloir diligenter avec la présence d'un avocat pour monsieur et d'un avocat pour madame.
C'est quoi l'intérêt, en fait ?
Alors, l'intérêt, en fait, alors c'est, honnêtement, c'est très spécifique. Ouais. Et encore une fois, pourquoi je parle de ça ? Puisque j'ai une personne de confession juive qui est venue me voir il y a quelque temps, qui souhaite se séparer de monsieur et qui considère, alors c'est plus pour des considérations religieuses qu'autre chose, qui considère qu'à ce stade-là, enfin pour l'instant en tout cas, elle ne s'autorise pas, j'allais presque dire moralement ou intellectuellement, à se séparer de monsieur. Donc elle veut quand même qu'il y ait une séparation sans qu'il y ait une dissolution du mariage. Donc elle veut cette séparation de corps. Et souvent, c'est l'aspect religieux qui est mis en avant. Alors après, on entre dans la psychologie, qu'est-ce qui fait que c'est assez particulier. On explique évidemment, pour pas que l'intéressé soit déçu, que la séparation de corps, encore une fois, c'est quand même, par rapport à une procédure de divorce, assez restrictif. Et que si on veut aller plus loin, si pour des raisons X ou Y, soit madame dit, ben moi j'ai envie de transformer ma séparation de corps en divorce, soit la partie adverse, c'est-à-dire monsieur pourrait dire, bon, c'est une situation qui n'est plus tenable, il pourrait engager une procédure de divorce. Dans ce cas, on met quand même en avant le fait qu'indépendamment de l'aspect juridique, il y a un aspect financier. Donc vous allez payer pour une procédure de séparation de corps, et c'est, j'allais presque dire, le même tarif qu'une procédure de divorce. Et en plus, vous paierez pour une procédure de divorce. Donc c'est quand même un timing deux fois plus long, et ça reste quand même des honoraires, on va être honnête intellectuellement, qui finissent par être élevés si vous diligentez les deux procédures. Donc, si vous voulez faire l'économie de l'aspect entre guillemets religieux, il vaudrait mieux prendre la voie express et une procédure de divorce directement. Mais bon, après, je peux entendre et comprendre. Moi, j'ai écouté cette femme longuement, donc je peux l'entendre. Mais à partir du moment où elle est motivée pour cette séparation de corps, l'obligation et l'honnêteté intellectuelle de l'avocat, c'est quand même de bien expliquer que ça peut pas, entre guillemets, durer éternellement. Donc au bout d'un moment, je le redis, soit monsieur, soit madame finira par diligenter la procédure et on se reverra devant un autre magistrat.
Ou par annuler la séparation de corps.
Alors on peut l'annuler. On peut toujours annuler une séparation de corps. D'ailleurs, c'est pas, entre guillemets, très, très compliqué. Il suffit de revivre ensemble. Mais comme on peut annuler...
Ah bon, ça suffit. En fait, il n'y a pas de...
Non, alors, vous pouvez faire...
Il n'y a pas de procédure.
Non, il n'y a pas de procédure particulière. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, ça nous arrive parfois, on envoie au magistrat ce qu'on appelle un désistement. C'est-à-dire pour dire, écoutez, il y a madame, monsieur qui voulait engager une procédure et plus ils ont plus envie. Donc ça veut dire que procéduralement, ça va s'arrêter. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Et voyez, sans trahir de secret professionnel, je recevais ce matin une personne pour laquelle on avait engagé une procédure de divorce. Alors pas de séparation de corps, de divorce, mais ce que je vais dire s'applique également pour les procédures de séparation de corps, qui ensuite a considéré qu'il y avait un rapprochement avec son épouse, qui m'a demandé de me retirer. Donc on s'est désisté à peine un an après, de retour. En règle générale, vous savez, au sein d'un couple, c'est comme une assiette en porcelaine. Si vous la faites tomber et elle se fracasse, vous pouvez recoller les morceaux, mais quand vous tapez, ça sonne plus de la même manière. Donc au bout d'un moment...
Vous croyez pas que les gens peuvent
c'est impossible.
Rabibocher.
Non, c'est impossible. C'est à très court terme. Bah, ça peut durer 3 mois, ça peut durer 6 mois. Au bout d'un moment, vous savez, parce que d'abord, quand on veut se séparer, il y en a toujours un qui a une parole qui est plus que blessante. C'est-à-dire que, c'est ce qu'on dit, hein, parfois ça fait plus mal que de recevoir un coup de tronche. Donc, qu'on le veuille ou non, à un moment, ça revient. Et en particulier, et c'est le cas pour ce client qui s'est retrouvé en garde à vue à cause des déclarations de madame, c'est difficile hein,
de passer l'éponge.
Franchement, voilà. C'est-à-dire que, bon, après, on peut dire, bon, là, je vais faire l'effort, il y a des enfants. Au bout d'un moment, ça revient. Quand on a l'impression, ou quand on a été trahi par la personne qui, en principe, à qui vous devez accorder une confiance absolue et qui doit vous faire confiance, c'est très compliqué. Alors oui, on...
Vous ne croyez pas à la deuxième chance ?
Non, il y a zéro chance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez été trahi, mais trahison dans le sens large du terme, je ne parle pas de la personne qui a été trompée. Voilà, mais à partir du moment où on en est là et on a déjà engagé une procédure, en règle générale, à 100%, l'intéressé qui dit « Maître, je me suis retiré », va revenir vous voir pour relancer une nouvelle procédure.
Oui, de toute façon, c'est une règle. Hein, sur la trahison, quand vous avez été trahi une fois par une personne, si vous pardonnez, elle vous trahira une deuxième fois. Ça, c'est une règle.
On est d'accord. Ouais. Donc, c'est toute la difficulté. Donc, c'est vrai que... Et d'ailleurs, j'ai eu l'honnêteté de dire à ce monsieur, je lui ai écouté, quand vous êtes venu me voir pour me dire « Écoutez, on va se désister, ça va mieux avec madame », je lui ai dit, au fond de moi, je savais, à un moment ou à un autre, qu'on allait se revoir. C'est comme ça. Ça fait pas plaisir.
C'est comme ça et c'est tout. Mais vous terminez comme ça.
Ouais. Il y a rien d'autre à rajouter. Voilà, si vous voulez jouer la carte de l'honnêteté, faites-le. À partir du moment où vous avez trahi, il n'y a plus de pardon. Il n'y a plus de pardon.
Bon, vous avez le temps d'une page de publicité pour réfléchir à ce que vient de dire Maître Serran. Et si vous avez des questions juridiques, vous composez le numéro du standard de Beurre FM 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
C'est au droit. Reviens dans un instant. Beurre FM, 11h midi, C'est tout droit, présenté par Philippe Robichon et Maître Mourad Serran.
Voilà, vous posez vos questions juridiques à Maître Serran au standard de Beurre FM 01 53 48 3000. Et c'est Malik qui est avec nous, Maître Serran. Malik, bienvenue.
Bonjour, Maître.
Bonjour, Malik.
Bonjour, Maître Ferré, le footballeur. Voilà. Là, j'ai reçu une lettre de Paris. Direction de logement de l'habitat, du service des techniques, je pense, c'est une bonne nouvelle. Suite à un signalement, j'effectue le 9/1/2021 compte de vos logements situés bâtiment en co-escalier 11, côte gauche d'immeuble cité objet. Cette visite permet de constater importante humidité, condensation, réunion de logement, des raisons de ration. Permet efficace en occasion développement des moisissures de logements. Et l'infiltration d'eau et manifestée des murs fiscales à proximité de colonnes d'eau usée. Et des sondages relèvements de
l'humidité dans le Monsieur, voilà. écoutez-moi, parce que là, en vérité, on n'y comprend rien. C'est-à-dire que c'est un courrier de votre bailleur du service HLM.
Non, c'est du service
insalubrité. D'accord, donc qui dit qu'il y a une insalubrité qui est constatée dans votre logement.
Oui, oui.
D'accord. Et donc, la question...
Il a mis demeure votre bailleur
d'accord.
À votre disposition.
Ok, donc ce service-là demande au bailleur, donc au propriétaire, de faire en sorte que vous puissiez vivre dans des conditions saines et normales. D'accord.
Voilà.
Ok. Oui, vous l'avez reçu quand, ce courrier ?
Hein ?
Vous l'avez reçu quand, ce courrier ?
Ce matin.
Bon, donc, il y a une copie qui, par définition, va être envoyée également à votre bailleur.
Oui.
En principe, le bailleur doit tenir compte de ça et donc devrait revenir vers vous.
Oui.
Bon, j'imagine que le bailleur va dire, écoutez, moi, j'ai pas que monsieur dans mes fichiers, donc comptez peut-être une trentaine de jours... De votre côté, alors une trentaine de jours pour qu'ils reviennent vers vous. Oui. Mais de votre côté, rien vous interdit lundi ou mardi éventuellement de passer un petit coup de fil.
Oui.
Simplement pour vous assurer s'ils ont également reçu le même courrier que vous.
D'accord.
Voilà.
Est-ce que je l'envoie pour l'avocat en même temps ?
Vous avez un avocat ?
Oui, j'ai un avocat, oui.
Ah bah oui, si vous avez un avocat, monsieur, il faut évidemment l'informer de ça, c'est important.
Voilà.
Oui, non, c'est important. Dans ce cas-là, vous lui envoyez une copie de ce courrier, et puis bon, il va l'intégrer au dossier, bien sûr, c'est important.
Bon, Malik qui nous tient informés toutes les semaines. Merci, voilà. Malik, pour votre intervention. Kamel est avec nous. Kamel, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour Philippe.
Bonjour Kamel.
Bonjour Maître.
Bonjour Kamel.
Là, j'ai deux questions, s'il vous plaît, à vous poser par rapport à un fonds de commerce que mon père il a perdu il n'y a pas longtemps. Ça fait une boulangerie qui est exploitée. Lui, il est parti à la retraite. Moi, j'ai repris le commerce. On était avec le bailleur en désaccord. Ça fait depuis des années qu'on était au tribunal. Tous les ans, ça suit, c'est infini. Jusqu'à 2019, on était, le tribunal de Pontoise, il n'arrivait pas à juger l'affaire, ils nous ont renvoyé vers le tribunal de Versailles. Et là, le jour qu'on était passé au tribunal, mon avocat, il ne s'est pas présenté. Alors, ils m'ont jugé à mon absence, ils m'ont résilié le bail.
Ah oui, c'est dur ça, d'accord.
Ils m'ont résilié le bail, comme vous savez, je pense que l'avocat il m'a dit qu'on ne peut plus faire appel à la décision de justice. Et l'avocat, il reconnaît, il m'a fait un courrier séduit à ses arguments, ils arrivent tardivement, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas retenus au tribunal. C'est-à-dire qu'il reconnaît l'erreur qu'il a.
D'accord.
Est-ce que je peux retourner déjà contre l'avocat? Et la deuxième question, comme le tribunal, ils m'ont résilié le bail, et ils ont pris tous les arguments de l'adversaire, du propriétaire du mur, et ils ont fait résilier le bail, et ils m'ont fait, c'est-à-dire une somme globale à payer, c'est beaucoup, beaucoup d'argent, c'est plus de 50 000 euros à payer. L'avocat, il m'a dit pour faire appel sur cette décision, il faut payer. Ben, mon père, il ne peut pas payer. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé tomber. Il nous a prévenu comme quoi, si vous ne payez pas, il aura décidé qu'il a une voiture, le compte, les biens.
Oui. Mais juste, monsieur, pour comprendre le litige, on est d'accord, c'est-à-dire que c'est vous qui n'avez pas réglé donc le loyer dû.
Non, le loyer, on était toujours à jour, c'était dû à deux taxes foncières.
Des taxes foncières.
C'est d'accord, mais c'est des sommes d'argent qui sont à votre charge, enfin que ce soit du loyer ou des taxes foncières.
Non. Les sommes qui réclament, il y a deux, trois taxes foncières, et c'est-à-dire c'est par rapport à des loyers, soi-disant qu'on payait un loyer, c'était un endroit où on ne payait pas le loyer vraiment à son juste prix. Parce qu'il y avait un expert qui sortait pour faire estimer les loyers du
quartier. Ouais, et l'expert, il va dans quel sens? Dans le vôtre ou...
Non, il est parti dans l'autre, dans le sens du propriétaire.
Voilà, donc à partir du moment où il va dans le sens du propriétaire, c'est difficilement contestable.
Voilà, il a dit que parce que c'est des vieux, c'est à une zone industrielle, c'est vieux et tout ça.
D'accord.
L'expert, il a donné raison au propriétaire comme quoi les loyers, ils n'étaient pas vraiment juste prêts à payer. Et là, la deuxième question, c'est-à-dire que mon père, il ne veut pas faire il veut pas faire appel et tout ça, mais que la justice, elle va lui saisir.
Oui, monsieur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une décision, mais ça vaut pour toutes les décisions de justice, à partir du moment où vous avez une décision qui devient, comme on dit, définitive, la partie adverse va, entre guillemets, vous inviter à exécuter la décision, c'est-à-dire qu'il y a un huissier qui va venir, qui va dire vous avez été condamné, c'est maintenant définitif, vous devez régler tel montant, il y a un délai qui sera accordé, et c'est un délai qui est extrêmement court, et si dans ce timing vous n'avez pas réglé, le propriétaire va pouvoir user de ce qu'on appelle des voies d'exécution. Ce sont des procédures de saisie. Alors, je ne sais pas si... il aura le choix. S'il y a des immeubles, s'il y a des comptes bancaires, s'il y a des salaires. Donc oui, après, vous entrez dans le pénible et le compliqué. Et il faut savoir que ça coûtera encore plus cher, puisque les frais de huissier seront mis à votre charge, enfin de commissaire de justice maintenant.
Oui, vraiment c'est la décision parce que lui il a un appartement ici, il a fait une donation,
Mais pourquoi pendant la procédure?
Pardon?
Pendant la procédure?
Oui, exactement, oui.
Ouais, enfin bon, monsieur, vous imaginez bien que si cette information devait être reçue par la partie adverse, on aurait le droit de se poser la question de savoir si c'est pas une manière d'organiser son insolvabilité, tout simplement. Donc, ça peut être mis en avant en disant d'accord, mais tout ça est artificiel. La donation a lieu alors que ça commence à sentir mauvais. Et donc, un juge pourrait décider d'annuler cette donation qui, encore une fois, pourrait, alors je dis pas que c'est le cas, mais elle pourrait sembler artificielle.
Même que l'acte a été déjà signé chez le notaire.
Ah, mais bien sûr, monsieur. Bien sûr, on peut demander l'annulation d'un tel document. Alors, à charge, évidemment, d'apporter les éléments, c'est une procédure, mais... sinon, vous imaginez bien que ce serait un peu trop simple et un peu trop facile. C'est-à-dire que celui qui a des biens et qui sent que le vent va tourner fait en sorte de les donner à X ou à Y en se disant bah, « maintenant, j'ai plus rien ».
Ah oui, d'accord. C'est-à-dire qu'ils peuvent annuler l'acte de...
Ah bien sûr, oui, parce que je vous dis, on peut considérer qu'il a organisé son insolvabilité.
Oui, ouais, c'est ça, oui. Ouais. Et vis-à-vis de l'avocat qui a fait erreur, il s'est pas présenté au tribunal.
Alors, dans l'hypothèse où vous seriez amené à considérer que c'est l'absence de l'avocat qui fait que vous vous retrouvez dans une situation pareille, bien évidemment, il y a la responsabilité de l'avocat qui peut être engagé. Mais il faut faire attention, c'est-à-dire que c'est pas parce que l'avocat ne s'est pas présenté que le résultat est aussi mauvais. C'est-à-dire qu'il va falloir démontrer, de votre côté cette fois-ci, que si l'avocat s'était présenté, le résultat aurait été meilleur ou le résultat aurait été différent. Faut pas oublier que tous les avocats bénéficient, on paye, d'une assurance responsabilité. Ça veut dire que vous aurez affaire aux avocats de la compagnie d'assurance, et les avocats de la compagnie d'assurance vont mettre en avant quel argument ? Ben, ils vont dire d'accord, effectivement, Maître Truc s'est pas présenté, dont acte, mais dans l'hypothèse même où il se serait présenté, les éléments étaient tellement en votre défaveur que le résultat n'aurait pas changé. Donc c'est pas parce que vous engagez la responsabilité de l'avocat qu'un tribunal va dire « Ok, le montant qui a été mis à votre charge va être mis à la charge de l'avocat. Hein, faut faire attention à ça. » Parce que sa présence aurait peut-être rien changé si le dossier... Alors pardon pour le terme qui n'est pas joli, mais si le dossier était entre guillemets plié d'avance, que l'avocat soit présent ou pas, ça ne change rien. Et puis, autre chose, il faut savoir qu'on a des procédures, monsieur, où ce sont ce qu'on appelle des procédures écrites. Ça veut dire que votre avocat doit prendre des arguments, par écrit, les envoyer à la partie adverse, les envoyer au tribunal, mais sa présence physique n'est pas obligatoire. Vous lui reprochez quoi ? Est-ce que vous lui reprochez, entre guillemets, d'avoir rien fait ? Ou le jour de la plaidoirie, il n'était pas là ?
Voilà, exactement. Non, pas qu'il a rien fait.
Ouais.
Le tribunal de Pontoise le jure qu'ils n'ont pas pu juger l'affaire. Ils ont dit que nous, cette affaire, elle nous dépasse. Il y a que le tribunal de Versailles...
Monsieur, j'ai du mal. Alors, pardon, je vais vous reprendre tout de suite sur un plan procédural. Normalement, ça ne marche pas comme ça. Ouais, ils ne vendent pas des merguez. Mais quand Pontoise dit « cette affaire nous dépasse, tiens, on envoie ça à Versailles », je ne sais pas comment c'est possible.
C'était le cas. Ils nous ont envoyé au tribunal de Versailles. Ils nous ont donné un délai pour le jugement au tribunal de Versailles. On a préparé tous les arguments.
Le tribunal de Versailles, monsieur, on parle pas de cour d'appel, c'est le tribunal.
C'est la cour d'appel de Versailles.
Bah oui. Voilà, monsieur, mais c'est pas la même chose. Donc ça veut dire, donc c'est pour ça que j'ai un doute. Le tribunal de Pontoise y rend une première décision, on appelle ça une première instance. Ensuite, ouais. J'imagine que vous avez dû faire appel. Et vous vous êtes retrouvé devant la cour d'appel de Versailles.
Non, c'est le
problème. Ouais, ou la partie adverse. Mais voilà, c'est pas parce que Pontoise dit, écoutez, je sais pas ce qui se passe, partez à Versailles. Donc il y a quelqu'un, il y a une première décision qui a été rendue, l'un d'entre vous a fait appel, et l'affaire se retrouve devant la cour d'appel de Versailles.
Exactement.
Ouais. Voilà. Bon, bah donc, a priori, enfin, sauf si vous décidiez d'aller devant la cour de cassation, mais oui, a priori, la décision va être définitive.
Dans l'accord de cassation, il faut payer la somme que le tribunal.
Ah oui, non, mais bien sûr. Bah oui, c'est pour éviter ce qu'on appelle un recours dilatoire. C'est-à-dire, c'est pour pas juste perdre du temps.
Oui.
Donc, voilà. On va vous dire, vous payez, et ensuite, si demain, vous obtenez gain de cause, vous récupérez votre argent, mais c'est pour éviter que le type attende. Mais ça, c'est normal, hein.
Oui, pour payer une telle somme, c'est pas possible.
Mais monsieur, j'entends bien. Mais il y a un tribunal qui vous donne tort. Il y a une cour d'appel qui vous donne tort. Est-ce que vous considérez qu'effectivement, peut-être que les juges ont raison ?
Non, ils n'ont pas raison.
Parce les que deux.
C'est un fonds de commerce
qu'on est. Non, mais on ne va pas refaire le procès, j'entends bien. Ouais. Mais vous avez quand même deux juridictions différentes, a priori, qui disent que vous avez tort.
Ouais, parce qu'un juge qui faut faire résilier un bail au bout de 33
ans. Non, mais monsieur, j'entends bien. Encore une fois, je dis pas que ça fait plaisir. Je comprends bien. Je dis que juridiquement. Il semblerait, alors peut-être qu'il se trompe, hein, mais quand on a une première instance, une cour d'appel qui vous donne tort, a priori, on se dit peut-être que la partie adverse, ses arguments tenaient la route et qu'il avait plutôt raison. Après, il vous reste, oui, la cour d'appel, la cour de cassation, mais il va falloir payer avant.
Voilà, exactement, oui. C'est-à-dire, vis-à-vis de l'immobilier, le juge peut annuler l'acte de vente.
Ah ouais, bien sûr, monsieur, c'est artificiel ce que vous êtes en train de raconter. Donc en face, ils vont le voir. Hein.
Oui, voilà ce qu'on pouvait dire hein, sur votre cas. Kamel, vous pouvez appeler Maître Serran son téléphone portable après l'émission, Maître Serran.
Alors je suis joignable sur le 06 62 58 59 64. 06 62 58 59 64.
Et si vous voulez poser vos questions en direct à Maître Serran, c'est le 01 53 48 3000 que vous composez. 01 53 48 3000.
C'est au droit. Reviens dans un instant. Beurre FM, 11h midi. C'est au droit. Présenté par Philippe Robichon et Maître Mourad Serran.
Maître Serran, Ménad vous attend au standard au 01 53 48 3000. Bienvenue, Ménad.
Oui, bonjour. Bonjour, maître.
Bonjour, Ménad.
Donc, moi, j'ai un petit souci, en fait. Donc, j'ai entamé une procédure de regroupement familial. Donc, au niveau de la préfecture de Lille, depuis le 28 mai 2022.
Ouais.
Donc, j'ai pas eu de réponse. Donc, le dossier, il était transféré à la préfecture le 27 octobre 2022. Donc, j'ai resté 6 mois, pas de réponse. Donc j'ai pris un avocat. Donc il a fait un recours à l'amiable. Il a fait un nouveau dossier. Chanson, ma situation, elle est vraiment réglée. Donc j'ai des fiches de paie qui dépassent les 2000 euros. J'ai une conformité de la maison de la part de la mairie de Tourcoing. Donc on a attendu la réponse de la préfecture, donc RAS. Donc il a entamé une requête au niveau du tribunal administratif de Lille.
Ouais.
Donc hier, le juge il a refusé la requête.
Alors vous le savez peut-être pas, mais il y a un motif particulier. On vous dit quoi très exactement?
Aucune réponse, même de la part du juge. Il a marqué juste requête. Requête refusée.
Alors ça, c'est à la fin. On met, comme dire, c'est accepté ou refusé. Mais dans ce qu'on appelle le corps de la décision, c'est-à-dire si vous montez un peu plus haut, normalement, on vous dit, il y a monsieur qui a fait telle demande, il me saisit pour telle raison, et puis moi, magistrat, et là, il doit y avoir le raisonnement du juge. Ouais, le tribunal met pas juste non, ou requête refusée. Il explique quand même... même si l'explication peut ne pas faire plaisir, mais il donne quand même des pistes pour dire pourquoi il refuse.
Bah, en fait, le juge, il a dit, il a raison, la préfecture, il a tout le temps pour répondre à ce monsieur, en fait. Et qu'est-ce qu'il m'a expliqué, l'avocate?
Mais vous l'avez reçu, la décision?
Ils l'ont envoyé à recommander, donc je le reçois lundi.
Ah voilà, alors ce serait intéressant quand même parce que la décision, alors l'avocat lui peut l'avoir très rapidement. Il y a un système intranet là qui permet d'avoir la décision assez rapidement, et puis ensuite effectivement le client la reçoit par recommandé à R. Donc, voyez d'abord, lisez la décision, et puis vous voyez avec votre avocat si les arguments, parce qu'encore une fois, il y a forcément quelque chose, si les arguments invoqués tiennent la route ou pas. Après, il n'y a pas mille options. C'est-à-dire que soit vous dites, bon, bah tant pis, on va attendre, même si c'est long, pour ne pas dire très long. Soit vous dites ça tient pas la route comme argumentation et puis j'envisage de contester, de saisir la cour administrative d'appel. Mais bah, ça c'est une décision qu'il faut pas prendre à la légère. Voilà, il faut en discuter avec votre avocat.
Moi, d'après mon avocat, il m'a dit c'est pas normal cette réponse de la part de juge. Et après, il m'a dit si on conteste ça, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, au chanson, pour moi, ça fait 2 ans que j'attends la réponse.
Ouais, mais malheureusement, ce n'est pas le monopole de Lille, vous voyez. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de procédures, quelles que soient les préfectures, où ils prennent un temps infini. Alors, bon, je ne dis pas qu'il y a une directive qui dit c'est dégoûter à fond les uns et les autres, mais on a l'impression qu'il y a un peu de ça. Y a rien qui justifie que les préfectures mettent autant de temps pour apporter une réponse. Maintenant, encore une fois, votre avocat a raison. Il faut vraiment se poser la question de savoir est-ce que ça vaut le coup de diligenter la procédure ou pas. Alors, il aurait peut-être, ça m'ennuie toujours de commenter ce qui a pu être fait par un confrère parce qu'il connaît par définition le dossier mieux que moi. Il aurait peut-être essayé de saisir le tribunal, mais peut-être en référé en urgence pour voir si le tribunal considère qu'effectivement les autorités préfectorales prennent un temps qui n'est aucunement justifié et qui traîne des pieds, parce que la procédure de référé, par définition, vous avez une date plus rapide. Mais encore, voilà, vraiment sous toute réserve, votre avocat, monsieur, il connaît le dossier mieux que moi, donc je suis pas en train de dire tiens, il s'est planté, il aurait dû faire ceci ou cela. Je dis que quand le dossier le permet, parfois, ça vaut le coup de saisir le tribunal en référé pour être fixé assez rapidement, parce que les procédures classiques sont souvent longues, et puis quand à la fin on a une réponse négative, on est encore plus déçu. Donc voilà, pour poser, il faut vraiment bien discuter, mais je crois qu'il vous a répondu. C'est vrai que si vous décidiez de saisir la cour administrative d'appel, une cour administrative d'appel met du temps. Et puis, il faut être certain du résultat. Si vous attendez encore 6 mois, 1 an, et qu'à la fin, vous avez la même réponse, c'est frustrant.
Ouais, c'est ça.
Voilà, donc il faut vraiment bien calculer son truc, hein.
D'accord, je vous remercie, Nat.
Merci à vous pour votre appel.
Il n'y a pas de souci. Allez, bon courage à vous.
Merci à vous, bon courage.
Merci.
Merci. Allez, rapidement, on va accueillir Malika. Malika, bienvenue, Malika.
Oui, bonjour, maître, et bonjour, Philippe.
Bonjour, Malika.
Bonjour, Malika.
J'ai une question. J'ai été expertisée médicalement. Et j'ai eu droit à un congé longue maladie pendant 1 an. J'ai eu droit à mon salaire complet pendant 1 an. J'ai revu l'expert 1 an après. Et il a jugé que j'étais inapte à mon poste. Et de me retrouver à un poste à mi-temps thérapeutique. Et que j'étais inapte à mon poste, à mi-temps thérapeutique et sédentaire.
D'accord.
Et depuis un an, je suis fonctionnaire. Hein. Et depuis un an, je touche mon salaire à temps partiel. À demi-solde, quoi.
Mmh.
Et depuis un an, on n'arrive pas à me trouver un poste.
Ben oui, c'est toute la difficulté. En fait, c'est une manière aussi, entre guillemets, alors pardon pour le terme qui n'est pas joli, de dégager l'intéressé. C'est-à-dire qu'ils doivent justifier quand même qui font des recherches et qui font pas semblant. Donc, alors je sais pas si s'ils ont pu justifier de ça auprès de vous, mais vous êtes évidemment en position de leur demander de bien justifier qu'ils ont fait telle ou telle démarche, à quel moment, à quel type de poste, parce que ça va être votre seul entre guillemets angle d'attaque. C'est-à-dire que s'ils traînent des pieds volontairement. En espérant qu'au bout d'un moment vous disiez bon allez stop, c'est n'importe quoi comme situation, et que vous preniez vous l'initiative de mettre fin à tout ça, évidemment ce serait contestable et attaquable, mais alors à moins que vous ayez déjà posé la question, mais ils ont l'obligation encore une fois de d'apporter de manière très précise tous les justificatifs pour dire oui, on a fait, ou en tout cas on s'est approché de tel service, où on a eu un refus parce qu'on nous dit que. Donc il suffit pas simplement de dire écoutez, on cherche et pour l'instant on trouve pas.
C'est ça, maître. J'ai vu des postes, j'ai candidaté, et à chaque fois ça a été un refus.
Et à chaque fois, pardon ?
Il y a eu un refus.
Il y a eu un refus. Alors c'est un refus qui est. On vous le motive comment, ce refus ?
Parce qu'en justifiant qu'il n'était pas sédentaire alors qu'il était, mais parce que je suis à mi-temps thérapeutique, ils n'en veulent pas, quoi.
Bah alors la mission, c'est justement de faire en sorte de trouver un poste qui puisse correspondre à votre situation. C'est-à-dire que si effectivement il y a des postes et puis on vous dit bah écoutez, vous êtes à mi-temps thérapeutique, vous entre guillemets vous ne convenez pas au poste, ça n'a pas de sens. Le truc, c'est de vous donner, en tout cas de vous dire qu'il y a tel ou tel poste, ou quand on est dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, on peut occuper ce poste. C'est l'obligation, c'est ça. C'est pas simplement de vous balancer plein de postes et d'avoir des réponses négatives.
Alors Malika, ce que vous allez faire, c'est que vous allez poursuivre cet entretien avec Maître Serran après l'émission. Maître Serran, rappelez votre numéro de téléphone, s'il vous plaît.
06 62 58 59 64. 06 62 58 59 64.
Voilà, vous attendez un petit peu quand même que Maître Serran.
Ouais, le temps de se rééquiper, tranquille, de remettre son blouson, de prendre sa voiture, et puis vous n'hésitez pas à m'appeler. J'ai dit quelque chose de mal ?
Non, tout est parfait, Maître Serran. Vous reviendrez pour la dernière samedi prochain.
Eh ouais, Inch'Allah.
Et vous irez toucher votre chèque à la comptabilité.
Ouais, mais pourquoi ? Je reviens après le ramadan.
Ah ben non.
Ah non, mais je peux pas être là.
Qui ne fait pas le ramadan ne revient pas après
mais
le ramadan.
Je le fais, mais je serai pas là.
On en reparle.
Retrouvez C'est tout droit tous les samedis de 11h à midi en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.